Maxime, te voilà enfin. Réveille-toi, il est temps de retourner dans le présent.
Le présent? Mais attends, tu es moi? Mais comment c'est possible? Et pourquoi tu sors d'une DeLorean? Retour vers le futur, ça appartient à la Fox, pas à Disney.
Je suis ton toi de 2019 et tu es actuellement coincé dans une faille spatio-temporelle en octobre 2018, alors que nous sommes en réalité en août 2019, Maxime.
Quoi?
Dans notre monde, Disney a définitivement racheté la Fox. Phantom Manor a réouvert et tu n'as pas fait de podcast depuis des mois. On t'appelle même le Antoine Daniel du podcast. Alors, tu montes?
Phantom Manor a réouvert? 2019, j'arrive. Et bien maintenant que nous sommes de retour en 2019, j'aimerais faire une petite parenthèse rapide pour vous dire pourquoi j'aime tant Disneyland. Et bien c'est très simple, si j'aime tant Disneyland, c'est avant tout pour l'immersion que ce lieu arrive à nous transmettre. Mais nous oublions souvent que cette immersion ne se réduit pas uniquement aux deux parcs à thème qui composent le resort. Contrairement à beaucoup de passionnés qui habitent proche des parcs et peuvent donc envisager leur visite comme de simples journées, il faut savoir que chacune de mes visites demande une certaine organisation. En effet, habitant à plus de 700 km du parc, mes visites se font principalement en séjour et les hôtels Disney du resort font entièrement partie de l'expérience. Pour moi, la magie ne commence pas au moment où je rentre dans le parc, mais bel et bien dès mon arrivée à l'hôtel. Vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui parler des hôtels Disney du resort, DLP Podcast saison 2, épisode 2, c'est maintenant. Pour commencer, je tiens à préciser que le but de ce podcast n'est pas de vous donner des conseils sur le plan économique. Je n'annoncerai pas le prix des nuitées et ne vous fournirai pas de conseils dans ce domaine-là. Non, l'objectif du podcast est ici plus de vous faire découvrir les hôtels Disney du resort dans leur thématisation, leurs spécificités et leurs services, pour qu'à la fin de l'écoute, vous puissiez éventuellement choisir celui qui vous correspond le plus ou en avoir appris un peu plus sur cette partie souvent oubliée du resort. Il est d'ailleurs bon de savoir que les hôtels du resort sont gratuitement visitables et je vous invite donc à la suite de ce podcast, lors de votre prochaine visite par exemple, à faire le tour des hôtels pour essayer de capter l'atmosphère de chacun d'entre eux. Personnellement, j'ai eu la chance de séjourner dans tous les hôtels du resort sauf le New York et je vous propose donc sans plus tarder d'attaquer notre marathon des hôtels, suite auquel je vous délivrerai mon classement personnel. Mais tout d'abord, il est intéressant de noter que même si au premier regard, les hôtels n'ont pas l'air d'être liés entre eux, eh bien ils répondent tout de même à un thème global et à un même fil conducteur. En effet, la décision a été prise de dépeindre l'héritage culturel américain dans toutes ses facettes, à travers les différents hôtels, pour créer un contraste avec l'architecture européenne environnante. D'un village typique du Far West à une station balnéaire de la fin du 19e siècle, en passant par les grands parcs nationaux californiens, c'est donc un véritable voyage vers les États-Unis que les visiteurs pourront ici expérimenter à travers 6 hôtels différents, si l'on ne compte pas le David Crockett Ranch, bien évidemment. Pour finir avec cette présentation, il me semblait intéressant de vous divulguer quelques projets abandonnés, on retrouve notamment un hôtel sur le thème de Fantasia, un hôtel en forme de porte-avions ou encore un hôtel dont la structure serait transparente. Tous ces projets-là ont été évoqués mais n'ont pas été faits, n'ont pas été retenus au final. Passons donc désormais à notre tour des hôtels en commençant avec le Santa Fe. Nous commençons donc certes avec l'hôtel le moins cher, mais pas le plus simple au niveau de son concept, puisqu'il est probablement le plus abstrait de tous. L'architecte de cet hôtel se nomme Antoine Prédoc, et son objectif était ici de faire un hommage à la route 66 et de présenter l'Ouest américain de par des symboles que l'on va retrouver aux quatre coins de l'hôtel, ce qui fait que l'architecture générale n'a pas vraiment un thème clair et un thème précis, même si elle fait tout de même grandement référence au Nouveau-Mexique. Donc pour comprendre quels étaient ces symboles et où ils étaient situés, il faut savoir qu'à l'origine, donc à l'ouverture de l'hôtel en 1992, eh bien l'hôtel était tout simplement organisé autour de 5 pistes différentes qui racontaient un peu des histoires différentes. Donc nous avions la piste des artefacts, la piste des espaces infinis, la piste des monuments et la piste de l'eau. Et c'était donc tout le long de ces pistes, de ces différentes pistes, qu'on pouvait retrouver tous les symboles à l'ouest américain et tous les objets qui rendaient cet hôtel si particulier. On retrouvait donc par exemple une rivière pour la piste de l'eau, des carcasses de voitures pour une autre piste, des serpents de pierre, même un volcan, ou encore un ovni, qu'on peut encore voir, une structure ovni, qui était située tout simplement dans l'hôtel. Et chaque piste permettait donc d'accéder aux différents bâtiments de l'hôtel, puisque l'hôtel n'est pas structuré comme par exemple le Newport, où on a un seul bloc dans lequel se trouvent toutes les chambres. Non, ici ce sont des bâtiments qui sont disposés un peu de partout sur le site de l'hôtel et dans lequel vous pourrez retrouver vos chambres. Mais ce thème là s'est un peu perdu au fil des ans, et notamment aux alentours de 2013-2014, où l'hôtel s'est vu rethématiser suite à une réhabilitation sur le terme de Cars 4 roues rallye. Effectivement, c'est le premier hôtel qui a bénéficié du plan de réhabilitation des hôtels à l'époque. Et donc, avec cette rethématisation, eh bien, toutes ces pistes-là se sont un peu perdues. Il y a pas mal d'effets qui étaient présents de base, qui pour des raisons de sécurité ont été enlevés. Donc, par exemple, les carcasses de voitures ne sont plus présentes. La rivière n'est également plus présente. Le serpent de pierre n'est plus présent. Le volcan n'est plus actif, n'est plus présent. Donc, tous ces éléments de thématisation qui étaient présents à l'origine ont disparu pour laisser place à un hôtel qui est donc sur le thème de Cars 4 roues rallye, avec donc des frises, de simples frises qui décorent le haut des bâtiments des hôtels, de l'hôtel, et qui s'éclairent une fois la nuit tombée. Donc déjà que le thème de l'hôtel n'était pas très clair de base, maintenant ça a, je trouve, encore plus perdu de son charme avec cette thématisation-là, qui certes pourra plaire aux plus jeunes, mais qui honnêtement n'est pas la franchise qui m'attire le plus. Cars, c'est pas vraiment mon Pixar préféré, et je le trouve quand même bien plus enfantin que certains autres Pixar, qui justement ont cette qualité d'avoir un sous-texte qu'on peut lire tout simplement à tous les âges. Donc cette réhabilitation, je ne la trouve pas entièrement réussie. De plus, là je vais commencer à rentrer dans mon avis personnel, on a un peu parlé de la thématisation. Je trouve que c'est un hôtel qui fait très motel plus qu'hôtel en fait. L'architecture est vraiment particulière et il faut vraiment accrocher à celle-ci, ça fait très motel. Ce sont vraiment des blocs en fait, les bâtiments font vraiment bloc en fait. Ça n'a pas vraiment un réel charme, surtout depuis que cette réhabilitation-là a été faite. Donc ça, c'était pour l'aspect vraiment extérieur qui, je trouve, n'est pas des plus attrayants. Peut-être à part de nuit, quand vous avez toutes ces frises qui se trouvent au-dessus des bâtiments, qui s'éclairent et qui donnent vraiment un charme assez particulier à l'hôtel et très appréciable. Mais mis à part ça, étant donné que le thème était de base assez ambigu et que les bâtiments font assez bloc au final, je trouve pas que ce soit vraiment l'hôtel le plus immersif. En revanche, si on parle un peu des prestations de cet hôtel, il faut savoir que c'est un hôtel de clés. Donc les clés, ce sont le système de classification Disney, un peu comme leurs propres étoiles qu'ils ont définies eux-mêmes. Donc c'est un hôtel de clés tout comme le Cheyenne. Ça fait donc partie des hôtels les moins chers du resort, ce qui fait qu'on va être sur un système assez différent des autres dans la disposition de l'hôtel, comme je l'ai dit un peu précédemment, puisque là on est sur plusieurs bâtiments qui sont disposés un peu de partout sur la zone de l'hôtel, ce qui fait que vous allez avoir, imaginons, la réception à l'entrée. Si vous êtes sur un bâtiment qui est à l'autre bout de l'hôtel, eh bien vous allez devoir pas mal marcher pour faire des allers-retours entre la réception, toute cette zone-là où vous allez pouvoir, par exemple, prendre votre petit déjeuner et votre chambre. Donc ça, si vous n'aimez pas marcher, vous déplacer, ça peut être un inconvénient, étant donné que voilà, les distances sont quand même relativement longues, bien sûr, de toute proportion gardée, hein, on reste quand même sur une échelle raisonnable. Mais c'est un critère à prendre en compte si vous voulez séjourner dans cet hôtel, à savoir que vous pouvez demander soit une chambre qui sera plus du côté des tout simplement des services de l'hôtel, donc plus du côté de la réception, Et vous pouvez également demander une chambre qui sera plus proche de la rivière, donc Rio Grande, qui sépare l'hôtel Cheyenne et l'hôtel Santa Fe. Dans ce cas-là, vous serez plus proche des parcs si vous souhaitez vous y rendre à pied, puisque c'est un hôtel qui est environ à 20 minutes du parc Disneyland et des parcs Walt Disney Studios. En réalité, la plupart des gens prennent la navette. Alors là, c'est un petit conseil que je vous donne, vraiment, vous n'êtes pas si loin que ça du Disney Village. Donc, si vous avez la possibilité et que ça ne vous dérange pas de marcher, eh bien je vous conseille fortement d'aller sur les parcs à pied, en longeant tout simplement la rivière Rio Grande. C'est très agréable le matin ou le soir, c'est une petite balade qui ne paye pas de mine, et ça vous permettra d'éviter d'être entassé dans les bus et de devoir repasser les portiques de sécurité au niveau de l'entrée principale et de l'esplanade, puisque si vous passez par la rivière et donc par le Disney Village, vos sacs seront contrôlés au niveau du lac Disney, et là vous n'aurez généralement jamais d'attente. Donc je vous conseille de faire ça si vous y séjournez. Ça, c'est pour ce qui est donc de la disposition de l'hôtel en général. Pour ce qui est des services en eux-mêmes et des chambres, il faut savoir donc que les chambres, comme je l'ai déjà dit, ont été rethématisées sur le thème de Cars. Donc il faut vraiment aimer cette franchise-là, ce qui n'est personnellement pas vraiment mon cas. Je trouve que Cars, ce sont des films Pixar, peut-être le film Pixar le plus enfantin de tous, parce que généralement dans les films Pixar, on arrive toujours à avoir un sous-texte qui fait que ce sont vraiment des films pour tous, mais Cars, je le trouve peut-être un peu trop enfantin, et c'est pas un univers qui m'attire. Donc forcément, les chambres, bien qu'elles soient plus ou moins bien thématisées, ne me transporte pas entièrement, quoi. C'est-à-dire que c'est très sympa pour les enfants qui aiment Cars, par exemple. Vous allez avoir des ampoules, des lampes rethématisées en cônes de signalisation, tout ce genre de choses, des rideaux Cars, un tableau avec Martin. Enfin, vraiment, ça reste très mignon, bien thématisé, mais c'est pas vraiment ce qui me transporte le plus, on va dire. En revanche, pour ce qui est du confort en lui-même, il faut savoir que même si c'est un hôtel de clé Disney, on retrouve les prestations et le confort Disney. Donc vous allez avoir tout de même une literie de qualité, une salle de bain qui est largement suffisante. Au niveau du confort, généralement, dans tous les hôtels Disney, il n'y a vraiment pas de problème. Mis à part ici, le fait, et c'est un détail à prendre en compte, qu'il n'y a pas la clim, il y a seulement des ventilateurs dans les chambres, ce qui fait que si vous venez en plein été, ça risque vraiment de pouvoir vous poser problème, puisque vous n'avez pas la possibilité de mettre la clim. Et donc si vous craignez vraiment la chaleur, je sais qu'il y a quelques personnes que ça a dérangé dans cet hôtel-là, puisqu'il fait très très chaud dans les chambres avec seulement un simple ventilateur au plafond. Donc voilà, c'est un détail à prendre en compte. Donc pour le confort général, c'est un hôtel qui reste quand même de qualité. Ensuite, quel point je n'aurais peut-être pas abordé? Eh bien, ça, on va en parler à la fin du podcast. Comme dans tous les hôtels Disney, désormais, les petits déjeuners ne sont pas inclus. Si vous le prenez, ils se prennent à la cantina, donc à côté de la réception de l'hôtel. Mais sachez que personnellement, je ne trouve pas vraiment que ce soit des plus agréables de prendre son déjeuner là-bas, puisque la cantina, ben, c'est une grande salle de restaurant, ce qui fait que vous vous retrouvez vite aux heures de pointe avec une salle remplie de monde. Donc ça grouille de monde, ça grouille de bruit, et c'est peut-être pas le plus agréable pour prendre votre petit déjeuner. Si vous le pouvez, privilégiez un café et une viennoiserie sur le parc directement, ça sera, je pense, bien plus agréable, ou au Starbucks ou ailleurs. Mais vraiment, si vous n'aimez pas être assailli par le bruit et par le trop-plein de monde dès le petit matin, je vous conseille vraiment de ne pas prendre votre petit déjeuner à la cantina et de le payer ailleurs, peut-être moins cher et dans des conditions plus agréables. Donc voilà pour ce qui est du Santa Fe, je pense avoir à peu près fait le tour de cet hôtel. Pour résumer, c'est un hôtel qui reste très avantageux de par son prix. C'est un des moins chers du resort si on ne compte pas les hôtels partenaires. En revanche, la thématisation peut-être vous repousser un peu si vous n'accrochez pas à cette architecture-là, qui est quand même assez spéciale, qui, je trouve, fait très motel au final. Si vous n'aimez pas Cars, ça peut aussi ne pas forcément vous attirer. Voilà, c'est à peu près tout pour cet hôtel-là. On reste quand même dans le confort Disney, dans le standard Disney, mais pour un prix assez équivalent, vous allez voir que le Cheyenne est, selon moi, peut-être un peu plus avantageux, et on passe donc de suite à l'hôtel Cheyenne qui se trouve juste en face.
Roundup, right here every day. Woody's Roundup, come on, it's time to play. There's Jesse the yodeling cowgirl. Bullseye, he's Woody's horse.
He's a smart.
Pete the old prospector, and Woody the man himself. Of course, it's time for Woody's Roundup. He's the very best. He's the rootinest, tootinest cowboy in the wild, wild west.
Donc pour ce qui est de l'hôtel Cheyenne, eh bien, il vous suffit de traverser la rivière Rio Grande qui sépare donc l'hôtel Cheyenne et l'hôtel Santa Fe pour vous y rendre. Et alors là, on est de nouveau sur une vision de l'Ouest américain, mais cette fois-ci une vision de l'Ouest américain beaucoup plus cliché, puisque l'architecte donc Robert Stern, qui a également participé à la création du Santa Fe dans sa conception, eh bien, a ici décidé de rendre hommage à cette vision un peu idéalisée de la ruée vers l'or, du Far West et de tous ces villages de Far West qu'on peut retrouver au cinéma. Puisque de base, l'idée était même survenue de placer au sein de l'hôtel des projecteurs de cinéma pour faire croire aux clients qu'ils étaient tout simplement sur un plateau de tournage. Donc ça n'a au final pas été fait, mais le concept reste le même, puisque le but n'est pas ici précisément de vous immerger dans une ambiance réaliste, dans un western réaliste, mais de vous faire vraiment sentir l'ambiance du western de cinéma, du western vraiment qu'on retrouve dans les mythes. Donc ici, ça va s'appuyer sur des bâtiments qui vont tous un peu se ressembler, un peu comme c'est le cas pour le Santa Fe. Mais là, on a une thématisation beaucoup plus claire, comme je vous l'ai dit, puisqu'on va vraiment se sentir au cœur d'un village de fiction, de western, avec des bâtiments aux couleurs différentes et avec des noms différents qui vont rendre hommage justement à ces figures du Far West, à ces figures du western qu'on connaît à travers le cinéma et les mythes et légendes. Donc pour ce qui est de la disposition de l'hôtel, on est sur la même chose que le Santa Fe, le même principe, des bâtiments séparés qui hébergent les chambres. Mais là, je trouve que vraiment, on est sur une immersion bien plus poussée, puisque comme je vous l'ai dit, vraiment, le but, c'est de se sentir comme si on était un peu sur un plateau de cinéma, un plateau de Far West, dans ces villages vraiment idéalisés qu'on se fait, cette image-là qu'on se fait du western. Et donc, c'est un terme qui me parle beaucoup plus. Mon nom préféré au Disneyland Park, c'est Frontierland. Tout cet aspect-là de l'Ouest américain, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment et ça fonctionne vraiment bien ici. Pour ce qui est des services, on est à peu près sur la même chose que ce que vous pouvez trouver au Santa Fe, puisque c'est également un hôtel de clé, mais qui a été rénové beaucoup plus récemment sur le thème de Toy Story. Donc là encore une fois, ça me parle beaucoup plus et je trouve les nouvelles chambres bien plus réussies. Vraiment, vous pouvez aller voir des photos sur internet ou alors aller voir le Il était une fois sur YouTube qui existe sur ce thème-là. Vraiment, je trouve ça très réussi. Vous avez des rideaux qui rappellent les motifs de la chemise de Woody. Vraiment, les lampes sont soutenues par les bottes de Woody. Ça fonctionne vraiment bien. Donc pour la chambre, au niveau de la thématisation, c'est réussi. Ensuite, au niveau du confort, on est à peu près sur la même chose que le Santa Fe. Peut-être un cran au-dessus même, mais ça reste des services de base. Les services de base qu'on retrouve à peu près dans toutes les chambres d'hôtel. Il ne faut pas aller chercher plus loin pour ce qui est de ce point-là. Donc thématisation très réussie, que ce soit dans les chambres, à l'extérieur ou à la réception. En revanche, sachez que pour ce qui est du petit déjeuner, je ferai ici la même réflexion que j'ai faite pour le Santa Fe, c'est-à-dire qu'on est sur un petit déjeuner qui reste quand même assez bruyant. Donc si vous voulez, pour un prix moins élevé, aller le prendre ailleurs, eh bien ça sera peut-être à votre avantage. En tout cas, pour le même prix que le Santa Fe, eh bien, je vous conseille bien plus le Cheyenne pour tous les points que j'ai déjà énumérés. Je pense que c'est un hôtel qui est bien plus sympathique dans son ambiance et dans les services qu'il propose. On va maintenant passer au cap au-dessus, au cran au-dessus, puisqu'on va parler du Sequoia Lodge.
Thank you.
Avec le Sequoia Lodge, nous montons donc en gamme puisque nous passons un hôtel 3 clés Disney. Et il s'avère que c'est un de mes hôtels préférés. Alors, quelle est la thématisation de cet hôtel? Quelle ambiance l'architecte a voulu retranscrire? Eh bien, ici, on est plongé au cœur de la nature, au cœur des grands parcs nationaux américains et californiens, où on retrouve donc un hôtel qui est fait avec pas mal de matériaux très naturels, donc comme le bois, la pierre, le cuivre. Donc, on est vraiment dans cette ambiance-là très calme, très naturelle, très boisée. Et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Alors ici, l'architecte a voulu rendre hommage à un certain type d'architecture très typique, très américaine, qui est l'architecture craftsman, créée donc par les frères Green. Alors si vous ne voyez pas ce que c'est, j'imagine que vous avez tous vu Retour vers le futur. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Sinon, nos amis de chez TGIL vont s'offusquer. Si vous voyez quelle est la maison de Doc dans Retour vers le futur, et bien voilà, vous voyez de quel type d'architecture je parle. C'est exactement ça, donc une architecture très boisée. Et on est sur un hôtel qui est très 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 relaxant, notamment l'hiver. Il vous suffit tout simplement de vous poser au lounge de l'hôtel, donc au bar de l'hôtel. L'hiver, généralement, la cheminée, il y a une grande cheminée centrale qui est allumée. Vous vous posez là pour prendre une boisson chaude et il n'y a vraiment pas plus relaxant que cet endroit-là pour la saison hivernale. C'est vraiment très reposant. On est dans une ambiance très calme avec une bande sonore que vous entendez actuellement en fond qui est très reposante, fait de bruit naturel. Vraiment, cette ambiance-là, très nature, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et pour faire en sorte que l'hôtel ne soit pas qu'un grand bloc trop imposant, ce qui ne collerait pas avec cet aspect naturel, eh bien, l'architecte a décidé de dispatcher en dehors du grand bâtiment principal de l'hôtel, de disperser les chambres dans des lodges qui se trouvent au cœur d'une forêt de séquoia qui a été plantée là pour l'occasion, avec une rivière qui serpente celle-ci. Vous pourrez même retrouver peut-être quelques castors, quelques faux castors qui sont disposés sur cette rivière et qui ont créé un petit barrage. Donc voilà, on a vraiment cette ambiance-là très naturelle. C'est un hôtel qui dispose d'une piscine puisqu'on a monté en gamme, on est dans un hôtel désormais 3 clés. Donc pour ce qui est du confort et des chambres en elles-mêmes, il faut le savoir qu'elles ont été rethématisées sur le thème de Bambi, mais ça reste quand même, je trouve, beaucoup plus discret que ce qu'on peut retrouver par exemple au Cheyenne ou au Santa Fe, où là on est vraiment sur du Toy Story et du Cars, mais de manière prononcée dans les chambres. Là, c'est rethématisé sur le thème de Bambi, mais ça reste tout de même assez classe. On retrouve cette ambiance vraiment très calme, très reposante, très naturelle, jusque dans les chambres, et c'est vraiment très agréable. Que vous soyez dans le bâtiment principal ou dans les lodges, ça sera à peu près la même chose, en sachant que c'est un hôtel qui dispose d'un club privé qui se nomme donc le Golden Forest. Et si vous séjournez au Golden Forest, vous serez dans les chambres des deux étages les plus hauts du bâtiment principal de l'hôtel. Donc vous pourrez avoir peut-être la chance d'avoir une magnifique vue sur le lac Disney. Ça, c'est vraiment très agréable. Alors j'ai pu tester le Golden Forest une fois et je dois vous dire que c'est mon avis est un peu mitigé là-dessus. Disons que vraiment, si vous n'avez aucune promotion qui se présente à vous pour prendre le Golden Forest, ce n'est pas un ajout vraiment essentiel à votre séjour dans cet hôtel-là, puisque qu'est-ce que ça va vous rajouter? Eh bien, si vous séjournez au Golden Forest, vous aurez un fast-pass hôtel, ce qu'on appelle un fast-pass hôtel, donc ce n'est pas un fast-pass VIP, qui vous donne accès à une utilisation à n'importe quelle heure que vous voulez, une seule fois, dans une attraction fast-pass de votre choix. Donc ce n'est pas non plus très avantageux. Vous avez le droit à cela. Comme je vous l'ai dit, vous êtes dans les chambres des étages supérieurs, donc vous avez également une machine à café qui est présente dans la chambre. Et l'avantage principal de ce club privé, c'est que vous avez accès au lounge privé du club, qui vous donne accès au petit déjeuner qui se fait dans une salle beaucoup plus restreinte et petite que la salle principale de petit déjeuner, qui elle est également assez bruyante, tout comme au Santa Fe ou au Cheyenne. Non, là vous êtes vraiment dans une plus petite salle, plus intime, avec des fausses branches au plafond, des petites lumières, une ambiance assez feutrée, quelque chose de très sympathique. Et vous avez également accès à un goûter gratuit toute l'après-midi durant un certain créneau horaire bien précis, où vous pouvez aller récupérer des boissons fraîches, des pâtisseries, tout simplement l'après-midi, de manière gratuite. Ça fait partie des prestations du club. Donc ça, c'est vraiment très agréable, mais vraiment, Je ne pense pas que ce soit nécessaire à un séjour au Sequoia Lodge, mais je vous ai exposé donc quel était ce club privé. Voilà pour ce qui est à peu près des prestations de l'hôtel. On est sur une literie qui est quand même bien plus qualitative que celle du Santa Fe et du Cheyenne, un confort forcément qui est plus grand. Ça fait partie de mes hôtels préférés de par son ambiance. Vraiment, je vous le conseille. De plus, il est situé au bord du lac Disney, ce qui fait qu'il est encore plus proche des parcs que le Santa Fe et le Cheyenne. Vous avez quand même besoin de faire le tour du lac pour accéder au Disney Village, mais c'est très rapide et c'est vraiment une balade très agréable, que ce soit le soir, le matin ou en journée. Donc vraiment un hôtel que je vous conseille. Donc vous verrez où il est placé dans mon classement à la fin, et on va de suite passer à l'hôtel suivant, qui est le Newport Bay Club. Passons maintenant donc au Newport Bay Club, qui est encore à un niveau au-dessus du Sequoia Lodge, puisque c'est un hôtel 4 clés Disney. Alors je ne pourrais pas vraiment m'éterniser sur cet hôtel-là, puisque je ne l'ai testé qu'une fois il y a quand même pas mal de temps, c'était bien avant la réhabilitation. Mais nous allons tout de même en parler. Au niveau de l'architecture et de l'ambiance de cet hôtel, on est sur une ambiance très côtière, hein, quelque chose de très marin, puisque c'est un hôtel qui s'inspire de l'architecture et des stations balnéaires et tout simplement des hôtels de plaisance de la fin du 19e siècle. Donc c'est quelque chose d'assez classe. On est encore sur un cran au-dessus au niveau de l'ambiance de l'hôtel et de l'aspect luxueux de celui-ci. C'est un des plus grands hôtels d'Europe, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un certain charme, que ce soit de par l'extérieur de l'hôtel ou l'intérieur de l'hôtel. Effectivement, on a les ailes qui se trouvent sur le côté de l'hôtel qui cassent un peu cet aspect-là d'immenses bâtiments. Pour ce qui est de la thématisation, il a été réhabilité également sur le thème pour ce qui est des chambres de Mickey et de Steamboat Willie, ce qui est vraiment bien trouvé, je trouve, et ce qui va parfaitement bien avec la thématisation de base de l'hôtel qui est sur un thème très marin. Donc pour ce qui est des prestations, on est encore au-dessus du Sequoia Lodge, puisqu'on a certaines choses qui n'étaient pas présentes là-bas qui sont présentes ici, comme par exemple une salle de sport en plus de la piscine et de toutes ces prestations-là. Vous avez bien évidemment un bar, comme dans tous les hôtels, un restaurant service à table et un restaurant buffet. D'ailleurs, oui, sachez que dans tous les hôtels Disney, vous avez des restaurants qui vous permettent d'y manger si vous préférez manger au restaurant plutôt que sur le parc. Alors là, ce n'est pas le thème du podcast, ce n'est pas le sujet du podcast, mais sachez que voilà, ces restaurants-là existent. Bien évidemment, j'ai oublié de vous en parler pour le Sequoia Lodge, vous avez une navette qui peut vous emmener jusque tout simplement à l'esplanade qui se trouve devant le parc. En revanche, à partir du moment où vous logez au moins au Sequoia Lodge, j'estime vraiment que prendre la navette n'a aucun intérêt. Alors autant pour ce qui est du Cheyenne et du Santa Fe, je peux comprendre, mais alors là vous avez vraiment des hôtels qui se trouvent autour du lac Disney, donc vraiment on est très proche du Disney Village, très proche du Disneyland Park, vous êtes à 10 minutes, 15 minutes si vous marchez lentement, donc vraiment prendre la navette c'est, je trouve, une perte de temps, surtout qu'il vous faudra repasser, comme je l'ai dit plus tôt, les portiques de sécurité. Vous allez avoir du monde dans le bus, donc vraiment, pour le Newport, le New York, le Sequoia, et bien évidemment le Disneyland Hotel, là il n'y a même plus de questions à se poser, je ne vous conseille plutôt d'aller sur le parc à pied plutôt qu'en navette. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cet hôtel-ci. La thématisation m'a l'air vraiment sympathique et j'aimerais beaucoup y retourner, puisqu'on est encore une fois sur une ambiance qui est assez luxueuse et on commence vraiment à ressentir la différence avec les autres hôtels au niveau justement de cette ambiance-là, au niveau des prestations, puisque Oui, le Sequoia a cette ambiance très naturelle, donc on est beaucoup moins dans cette espèce de raffinement un peu plus luxueux qu'on peut retrouver justement à partir du Newport Bay Club ici présenté. Donc si vous avez envie de vous sentir un peu comme si vous étiez sur une croisière, que vous aimez bien ce thème-là très marin, eh bien je vous conseille tout simplement cet hôtel, c'est certainement celui qui sera le plus adapté pour vous. En revanche, au niveau des prix, on commence ici à monter en gamme, donc on commence à être sur des hôtels qui sont vraiment assez peu accessibles, surtout depuis que le plan de réenchantement a été achevé, puisqu'il faut savoir qu'il y a une période où on avait énormément de choses en réhabilitation à Disneyland Paris. Et durant cette période-là, les prix d'hôtel ont drastiquement baissé et vous pouviez facilement trouver des promotions pour pouvoir y loger pour des prix assez raisonnables si vous y restiez par exemple 3 nuits. Et c'est comme ça que j'avais pu à l'époque séjourner au Disneyland Hotel, puisque ça ne serait tout simplement désormais impossible pour moi de séjourner au Disneyland Hotel. C'est bien trop cher, et le prix d'une nuit de nos jours au Disneyland Hotel, eh bien, c'est l'équivalent à l'époque de 3-4 nuits peut-être, donc ça n'a plus rien à voir, vraiment les prix ont largement augmenté, donc on est quand même sur un hôtel qui est assez peu accessible au niveau du prix, mais vraiment sa thématisation est tout à fait réussie et donc je vous le conseille. On va maintenant passer à l'hôtel New York. Alors l'hôtel New York, contrairement aux hôtels précédents, je ne vais pas vraiment développer quels sont les services, les prestations, on va pas vraiment parler de l'architecture de l'hôtel, pourquoi ? Puisqu'il est actuellement en réhabilitation pour devenir l'hôtel New York The Art of Marvel, qui arrivera donc courant 2020 si je ne dis pas de bêtises. Donc l'hôtel est en réhabilitation, il va changer, sa thématisation va changer, on reste sur quelque chose de très classe certainement, quelque chose de très new-yorkais et donc de très feutré, avec une atmosphère, oui, qui est très classe, c'est certainement un des hôtels qui a peut-être l'ambiance la plus classe et la plus appropriée pour des séjours d'affaires ou tout ce genre de choses-là. Et c'est normal puisque c'est l'hôtel qui accueillait notamment certaines conventions, certains événements. Donc l'hôtel se doit d'avoir une ambiance assez sobre. Et c'est ce qui fait que c'est le seul hôtel que je n'ai pas fait, mais c'est vraiment pas un hôtel qui m'attire. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'ambiance à l'intérieur de cet hôtel est très froide, en fait. Le lobby est très froid, l'architecture ne m'attire pas spécialement, bien qu'elle soit originale, et vraiment, ce n'est pas un hôtel chaleureux. Et ce que je recherche avant tout, c'est justement cet aspect-là très immersif, très chaleureux qu'on peut retrouver dans tous les autres hôtels du parc. Mais celui-ci, on est vraiment sur quelque chose de plus classe, de plus sobre, de plus froid, de plus new-yorkais au final, donc ça colle au thème, mais ce n'est pas spécialement quelque chose qui m'attire. Donc si vous aimez cette ambiance-là très classe, vraiment très sobre, quelque chose d'assez froid, eh bien je vous le conseille. Nous verrons ce que ça va donner avec la réhabilitation, on va se retrouver avec un hôtel très moderne, on va voir si peut-être on est sur quelque chose d'un peu plus chaleureux. Mais voilà, c'est jamais un hôtel qui m'a vraiment attiré, donc je ne pourrais pas plus vous en parler. On va voir ce qui va devenir dans les années qui arrivent. Donc on va de suite parler au Saint Graal, l'hôtel, un des plus beaux hôtels peut-être qui puisse exister, puisqu'on va parler du Disneyland Hotel. C'est parti. Ah, le Disneyland Hotel. Alors là, je peux vous dire qu'on va prendre notre temps pour vraiment s'immerger dans cette ambiance-là, puisque là, alors bien évidemment, on est encore sur une gamme au-dessus, hein, on est sur l'hôtel de luxe par excellence de Disneyland Paris. Vraiment, cet hôtel-là est assez exceptionnel, je trouve. Je vous dévoile mon classement en avance, mais il s'agit de mon hôtel préféré, mais en même temps, l'inverse est assez compliqué à imaginer une fois qu'on y a goûté, ne serait-ce qu'une seule fois, ce qui est de nos jours assez impossible étant donné les prix de l'hôtel, mais bon, ce n'est pas le sujet du podcast encore une fois. Pourquoi cet hôtel-là ? est absolument génial. Alors déjà, parlons un peu de l'hôtel en lui-même. C'est un hôtel qui reprend l'architecture victorienne, donc ce qui colle parfaitement avec Main Street USA, puisqu'on va également retrouver toute cette architecture-là, toute cette ambiance-là, tout au long de Main Street, et le Disneyland Hotel fait en quelque sorte partie de Main Street, puisqu'il se trouve à l'entrée du parc Disneyland. Pas besoin donc de prendre de navette, il n'y en a même pas, puisque vous avez juste à descendre de l'hôtel et vous êtes dans le parc Disneyland. Et ça, c'est tout simplement magique. C'est un des gros points forts de cet hôtel, vraiment dormir au pied d'un parc Disney, qui n'en a pas rêvé, qui n'en a jamais rêvé, et quand vous y avez goûté une seule fois, il est difficile de s'en passer, même si les prix de l'hôtel sont assez exubérants, donc il est désormais impossible d'y loger sans vider entièrement son compte en banque, ce qui n'est pas vraiment recommandable, je vous l'avoue. Donc cet hôtel-là, vraiment, c'est un de ses gros points forts. Dès que vous rentrez dans l'hôtel, vous êtes pris par cette ambiance très chaleureuse, puisque vous êtes accueilli tout simplement par une réorchestration très classe des musiques Disney. Vous avez une odeur très particulière qui se trouve dans tout l'hôtel, vraiment une odeur un peu d'ambre, quelque chose de très travaillé, de très raffiné. Et de suite, vous êtes pris dans cette ambiance-là. Ça vous tout simplement transporte dans cet univers très classe, très luxueux, avec cette architecture victorienne que je trouve tout simplement magnifique. Donc cette ambiance-là très chaleureuse, très luxueuse au final, on la retrouve un peu partout dans l'hôtel, qui est tout simplement magnifique. Quand vous arrivez au niveau du Café Fantasia, voilà, là vous avez encore une fois toute la splendeur de l'hôtel qui se révèle avec tous ces balcons qui sont disposés en cercle jusqu'au toit de l'hôtel. C'est très 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 beau, l'ambiance est assez dingue. D'ailleurs le Café Fantasia, qui est un de mes endroits préférés pour me poser et faire une pause durant une journée sur le parc. Alors vous ne pouvez pas vous poser au Café Fantasia vraiment tous les jours, puisque encore une fois les prix sont bien plus élevés qu'ailleurs sur le parc, simplement pour une boisson fraîche ou une boisson chaude. Mais l'ambiance, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez fantastique là-bas. Vous avez tout simplement les partitions des différentes musiques Disney qui constituent le papier peint du Café Fantasia. Vous avez une ambiance très relaxante de par la lumière, le service est vraiment de grande qualité bien évidemment. Donc tout ça, ça participe au charme du Disneyland Hotel. Au niveau des services et des prestations, bien évidemment, c'est parfait. Vous avez tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, vous avez une piscine, une salle de sport, de relaxation, une salle de jeu. Toutes ces choses-là sont présentes. Vous avez également la boutique de l'hôtel. À savoir que j'en ai pas parlé, mais tous les hôtels possèdent leur boutique qui ferme en général aux alentours de minuit 30. Donc, vous pouvez généralement passer, vous acheter une boisson, par exemple, avant d'aller dormir en rentrant dans vos hôtels, s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Boutique du Disneyland Hotel qui vend d'ailleurs le parfum d'ambiance présent dans cet hôtel là, donc si jamais vous voulez ramener un peu de cette ambiance odorante de cet hôtel là chez vous, c'est possible. Les chambres en elles-mêmes sont très 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 confortables bien évidemment, bien que elles soient thématisées sur Fantasia, ce qui est vraiment je pense une bonne chose, une bonne idée, mais les chambres peuvent paraître un peu vieillottes de par leur thématisation et leur aspect. C'est le seul hôtel qui n'a pas encore subi de réhabilitation, si on ne compte pas le New York qui est en cours. Ça devrait arriver, donc on va voir ce qu'ils vont faire à ce niveau-là, est-ce qu'ils vont moderniser les choses. S'ils le modernisent, il faudrait tout de même qu'ils respectent cette ambiance-là victorienne, qui est très caractéristique de l'hôtel. Donc les chambres qui peuvent peut-être paraître un peu vieillottes, mais au niveau des prestations, il n'y a encore une fois rien à redire, et heureusement pour le prix qu'on paye pour séjourner dans cet hôtel-là. Pour ce qui est des restaurants de l'hôtel, vous retrouvez ici deux des restaurants les plus chers de l'hôtel. Donc d'un côté, un buffet à volonté, l'Invention, qui est un repas avec personnages, donc un brunch, où vous pouvez retrouver énormément de fruits de mer, donc énormément de fruits de mer, beaucoup de plats très européens et vraiment bien cuisinés. À ce niveau-là, c'est vraiment bien. En revanche, le prix est assez élevé encore une fois. Et de l'autre côté, vous retrouvez un restaurant service à table qui est le restaurant le plus cher du resort, qui est le California Grill. Je ne pourrais pas vous en parler, je ne l'ai jamais testé. Mais on est vraiment sur le haut de gamme des restaurants à Disneyland Paris à ce niveau-là. Et si vous souhaitez faire un prêt et vous endetter pour le restant de vos jours, vous pouvez toujours séjourner au Castle Club. Alors le Castle Club, c'est quoi? Eh bien c'est le club privé du Disneyland Hotel qui vous donnera accès tout simplement à des chambres situées à des endroits un peu différents dans l'hôtel, mais surtout qui vous donnera accès au VIP Fastpass. Alors le VIP Fastpass, c'est quoi? C'est un Fastpass illimité. Vous pouvez vous en servir autant de fois que vous voulez, dans toutes les attractions Fastpass que vous voulez, à toutes les heures que vous voulez. Donc c'est littéralement un fast-pass illimité valable de partout. Ça, c'est vraiment un des gros avantages de ce club privé là. Vous avez accès à un lounge privé également qui vous servira un goûter encore plus raffiné que ce que vous pouvez trouver au Sequoia Lodge, puisque vous allez avoir des petits sandwichs, vraiment des amuse-bouches de qualité, tout ce genre de choses là. Vous pouvez même rester au lounge le soir pendant que Disney Illumination se poursuit, ce qui fait que vous regardez Disney Illumination depuis le lounge et depuis les fenêtres du Disneyland Hotel. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire, c'est vraiment quelque chose qui doit être très agréable. Donc voilà, ça y est, on a fini notre marathon des hôtels, mais le podcast n'est pas tout à fait fini, puisque j'ai d'abord un coup de gueule à passer. Donc on est parti pour l'instant coup de gueule, et ce coup de gueule, il concerne les petits déjeuners. Il faut savoir qu'avant toute la période de réhabilitation, les petits déjeuners étaient inclus dans le prix de la chambre, ce qui fait que vous aviez tout simplement un petit déjeuner inclus, ce qui me paraît tout à fait normal, et ce que beaucoup d'hôtels proposent. Depuis toutes ces réhabilitations-là, le petit déjeuner n'est plus inclus dans le prix de la chambre, donc vous devez le rajouter si vous souhaitez le prendre dans votre hôtel. Et il s'avère que les prix sont extrêmement abusifs, puisque on s'approche la plupart du temps du prix d'un restaurant service à table dans le parc. Et donc prendre un petit déjeuner au même prix que un repas par exemple au Silver Pure Steakhouse, je trouve ça tout simplement abusé en termes de prix, assez malhonnête, et vraiment je ne comprends pas cette démarche là. Enfin, bien évidemment que je la comprends, ça fait de l'argent, mais je ne trouve pas vraiment que ce soit une bonne idée de proposer ce petit déjeuner là à part. Je trouve ça même limite honteux, puisque c'était avant inclus dans le prix de la chambre, ça ne posait aucun problème, et faire payer un petit déjeuner qui est quand même donc moins consistant qu'un repas dans un restaurant service à table, c'est assez aberrant, et pour le même prix, donc je préfère manger sur le parc. Donc ça, c'était mon coup de gueule. Voilà, tout ce qui concerne les petits déjeuners, je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée, et depuis du coup je ne prends quasiment plus les petits déjeuners dans les hôtels, alors que je les adorais vraiment, mais ça devient bien trop cher, donc autant prendre une viennoiserie sur le parc, c'est tout aussi agréable. Avant de nous quitter, je vais donc vous donner mon classement des hôtels Disney, de celui que j'apprécie le moins à celui que j'apprécie le plus. Donc en 6ème place et en hors compétition, puisque je n'y ai jamais séjourné, on retrouve l'hôtel New York. L'hôtel New York qui ne m'a, comme je vous l'ai déjà dit, jamais attiré. Et vraiment, j'ai beaucoup de mal avec sa thématisation en fait. Je trouve vraiment que l'hôtel est très froid et pas vraiment accueillant, et ce n'est pas ce que je recherche quand je séjourne dans un hôtel Disney. Ensuite, en cinquième position, on retrouve l'hôtel Santa Fe, qui encore une fois a une thématisation qui me laisse assez perplexe. Alors oui, l'hôtel a son charme, il a un excellent, tous les hôtels Disney sont chers, mais il fait partie des moins chers du resort, donc c'est assez avantageux. En revanche, je ne suis pas très fan de l'aspect visuel global de l'hôtel. Les services ne sont pas les meilleurs. Vraiment, la thématisation sur Cars, c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement. L'architecture de l'hôtel en elle-même non plus. Donc, je le place en cinquième position. À savoir que tous les hôtels de cette liste sont en réalité bons. Mais ici, il faut bien les classer. Donc, en cinquième position, le Santa Fe. Ensuite, en quatrième position, je placerai l'hôtel Cheyenne. L'hôtel Cheyenne qui est quand même un cran au-dessus, comme je vous l'ai dit, je trouve, de l'hôtel Santa Fe, puisque il est assez bien thématisé. Vraiment, on a vraiment l'impression d'être au cœur d'un western. Vraiment, la thématisation sur Toy Story et sur Woody colle parfaitement bien à l'hôtel. C'est très beau, c'est très bien fait, mais ça reste un hôtel 2 étoiles. C'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans le classement. Ensuite, si on part sur la troisième position, c'est bien ça, oui, sur la troisième position, eh bien on retrouve le Newport Bay Club, qui est un hôtel que je n'ai pas fait plus longtemps, mais qui est très luxueux, très classe. Cette ambiance bord de mer, très marin, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est un hôtel, comme je vous l'ai dit, qui est donc également très luxueux, assez grand, mais la thématisation est vraiment bien faite et il mérite sa 3e place du classement. J'aimerais beaucoup y retourner prochainement, c'est quelque chose auquel il va falloir que je réfléchisse. Mais voilà, c'est un très bon hôtel, je vous le conseille. Mais il n'est pas au-dessus d'un de mes hôtels préférés, qui est le Sequoia Lodge, et qui se trouve en 2e place de mon classement, tout simplement, car comme je vous l'ai déjà dit, son ambiance, je la trouve particulièrement réussie. En hiver, c'est l'hôtel parfait dans lequel séjourner. Vraiment, on est sur quelque chose de très reposant, très relaxant. C'est vraiment le thème de cet hôtel, la nature. Et c'est tout simplement assez réussi. En première position, vous vous en doutez, je vais vous parler du Disneyland Hotel. Je ne vais pas débattre pendant longtemps là-dessus. On en a parlé juste avant. On en a pas mal parlé. Mais c'est l'hôtel le plus luxueux du parc, qui a les meilleures prestations, les meilleurs services. Il est à l'entrée même du parc, ce qui est un avantage non négligeable. Tout est réfléchi, même jusqu'à l'odeur. Clairement, pour moi, on ne peut rien faire au-dessus du Disneyland Hotel. Donc voilà pour ce qui était de mon classement. Pour ce qui est des années à venir et de l'évolution du complexe hôtelier, eh bien, on attend encore la réhabilitation du Disneyland Hotel, qui devrait certainement se faire dans les années à venir. On va certainement voir, ce n'a pas encore été annoncé, mais c'est probable, d'autres hôtels émerger, en plus que ceux qui sont déjà présents, pour pouvoir accueillir plus de visiteurs au terme du plan d'expansion des Walt Disney Studios et des nouveautés qui seront certainement bientôt annoncées pour l'avenir du parc. Il va donc falloir augmenter la capacité du complexe hôtelier qui est déjà assez grand. On risque certainement donc de voir d'autres hôtels arriver dans les années à venir. J'espère donc qu'ils seront aussi bien thématisés et aussi immersifs que les hôtels qui sont actuellement présents et qui font pour moi vraiment partie du resort en lui-même. Donc on verra ça dans les années à venir, mais voilà, qui ne fantasme pas sur un hôtel Star Wars comme ce qui va se faire à Walt Disney World, où là vraiment la thématisation serait encore plus poussée puisqu'on vivrait véritablement une expérience dans cet hôtel-là, comme si vous viviez une croisière intergalactique au final. Et ça pourrait être vraiment génial, cet hôtel Star Wars. On en a déjà parlé dans le podcast, le tout premier DLP podcast de cet hôtel. Mais ça serait tout simplement génial. Et beaucoup de fans de Star Wars seraient ravis, et même des gens qui ne sont pas fans de Star Wars. Donc voilà, à voir ce que les choses nous réservent dans l'avenir. J'espère que ce podcast a été clair, a été pertinent, intéressant pour vous. En tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire, étant donné que les hôtels, c'est un sujet qui n'est pas vraiment souvent abordé, ou en tout cas, il est abordé séparément, et on n'a jamais une overview globale de tous les hôtels du resort. C'est ce que j'ai essayé de vous faire ici, de manière la plus concise possible, et en même temps la plus utile. Le but, c'était pas non plus ici de vous conseiller en tant qu'agence de voyage ou je ne sais quoi, mais vraiment de vous faire une review rapide de chaque hôtel pour que vous vous rendiez compte de quelle est l'ambiance dans cet hôtel-là, quel service il propose ou il ne propose pas, vraiment de faire un tour des hôtels et surtout de vous donner la curiosité de vous-même aller les découvrir sans même y séjourner, mais faire le tour des hôtels, voilà, une journée, une après-midi, vous faites le tour de tous les hôtels, vous captez un peu l'ambiance de chacun, vous allez boire un verre dans les bars de chaque hôtel pour découvrir un peu l'ambiance qui s'y trouve. Ça peut être une bonne idée, ça, une tournée des bars des hôtels. Je sais que ça en plairait à certains qui se trouvent sur Twitter. Donc voilà, vraiment c'était un podcast qui servait à cela, à vous faire découvrir les hôtels et à peut-être même à vous aider pour décider dans quel hôtel vous allez séjourner pendant votre prochain séjour. Ce podcast qui était, je l'imagine en tout cas, en l'ayant enregistré, on verra ça au montage, assez court. J'espère qu'il vous aura plu encore une fois. Je ne vous donnerai pas de date pour ce qui est du prochain DLP podcast, puisque, comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas le plus régulier des podcasteurs, hein, ça c'est sûr et certain. Surtout que les choses risquent de se compliquer encore l'année prochaine, étant donné que je serai en colocation dans une autre ville que celle dont je suis actuellement. Donc la colocation va faire que l'enregistrement de podcast sera encore plus compliqué. En revanche, on se retrouve certainement très bientôt sur une autre, dans un autre podcast. Je n'en dis pas plus, mais il est possible que je sois invité ailleurs d'ici quelques temps. Donc ayez les oreilles de partout. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, suivant quand vous écoutez ce podcast. Et à la prochaine.